toutes et à tous. Bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Alors aujourd'hui, on va entamer la dernière partie de l'interview commencée il y a 3 semaines en compagnie d'un trio assez impressionnant, Elena Despascal, élève à l'époque, étudiante aujourd'hui, sa maman Véronique Dethière, mais qui participe à l'interview à la fois en tant que maman, mais surtout en tant que co-directrice de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, donc la FAPEO. Et le troisième invité de cette émission est Pierre Schoenbroth, journaliste et réalisateur au Centre d'Action Laïque. Ils sont venus nous parler pendant longtemps, l'interview en tant que telle a duré quasi 1h30, et vous en avez vous en aurez au final entendu quasiment l'entièreté. Ils sont venus nous parler d'un documentaire tout d'abord, qui s'appelle « Tout va s'arranger ou pas », documentaire qui porte sur la santé mentale des jeunes et qui avait projet qui avait démarré au lendemain du Covid, avec tous les signaux qui montraient que la santé mentale des jeunes allait de moins en moins bien. Elena, à cette époque, a traversé une période très très difficile, sa maman aussi. Et donc, à eux trois, ils ont décidé de se pencher sur le sujet. Suite à ce documentaire, qui a été présenté dans plein d'endroits, vous allez encore l'entendre dans l'interview d'aujourd'hui, un collectif est né, collectif Tout va s'arranger, l'idée étant de pas seulement faire un constat, mais aussi de continuer l'action, collectif qui a eu un impact politique, qui a eu une rencontre au Parlement, à nouveau pour parler de santé mentale. Et puis, après un premier docu, un collectif de l'action, ils ont voulu faire un deuxième documentaire qui, lui, s'intitule « Tout s'est arrangé ou pas ?» et en fait, au moment où l'interview a eu lieu, donc peut-être que par moment ça s'entendra, ils étaient en plein tournage de ce deuxième documentaire. Il n'était pas encore terminé. Depuis, c'est le cas, tout est fini. Et si vous voulez les voir, il suffit d'aller sur le site du Centre d'Action Laïque et vous pouvez y avoir à demande, vous pouvez les visionner. Mais donc voilà. On s'était quitté la semaine dernière alors que Pierre lançait un appel à tous, individus, patrons, institutions, appel à tous à être à l'écoute et à aider le secteur de la santé mentale, pas seulement les jeunes, mais tous. Et donc on va les rejoindre maintenant tout de suite en studio. Véronique Dethière, Elena Despascal et Pierre Schoenbroth. Je crois que je ne me trompe pas du tout en affirmant ça. Si le premier documentaire « Tout va s'arranger » partait d'un constat, on l'a entendu, là, il y a eu une réflexion, une politisation entre les deux. Le deuxième, lui, il a une volonté autre. On est au-delà du constat.
Oui, c'est un peu mon angoisse du moment. C'est que justement, il ne fallait pas répéter ce qu'on avait déjà dit dans le premier. Outre mes nuits qui ne sont pas spécialement bonnes, puisque je me torture un petit peu justement l'esprit pour essayer de ne pas faire du même, on s'est dit que pour éviter cet écueil-là, il fallait être un peu plus constructif dans notre approche et proposer des pistes de solutions.
Ok.
C'est un peu ça.
C'est vraiment ça. C'est tout à fait ça, c'est extrêmement ça. Donc, n'empêche qu'il y aura encore des constats aussi, je veux dire, mais c'est vraiment l'idée de dire il y a moyen de faire des choses.
Ouais.
Et de montrer que, à travers différents pôles qui seront portés en fait par chacun, par les trois jeunes, par moi-même et par Pierre, que c'est possible, qu'il y a moyen de faire des choses et. Et c'est aussi notre volonté, c'est de mettre, comme on l'a fait pour le premier, parce que je pense que c'est aussi important de dire que toutes ces projections, à chaque fois, ont mené à des débats, à libérer la parole, et notamment à permettre aussi à des jeunes, on avait souvent les jeunes avec nous lors des projections, à permettre à des jeunes d'échanger entre eux. Et ça a apporté énormément de positif. Et la même chose, le numéro 2, c'est de dire, il y a moyen. Il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de faire autre chose. Allons-y. Alors, c'est facile de dire n'y a qu'un. Hein. Mais on fait pas n'y a qu'un, nous. En tout cas, on va proposer, on va faire ce qu'on a fait avec le premier, faire des projections, organiser des débats. On voit même que dans... Parce qu'il y a un projet dans une école, notamment. On voit qu'il y a des choses... qu'il y a une prise de conscience, pas partout, mais qu'il y a une prise de conscience et que bah, on essaye. Et je pense que c'est ça aussi le message à envoyer, c'est qu'on a le droit d'essayer et on a le droit de se planter. En fait, je veux dire, on a le droit de dire je vais essayer, je vais tenter quelque chose avec ces jeunes pour ces jeunes et avec eux, hein, pas sans eux, parce que je veux dire prendre les décisions à leur place en disant demain on fait macramé. Ça marche pas, hein. donc
c'est vraiment macramé.
Mais c'est un peu
c'est du vécu, hein, ouais, plus, c'est
un
vrai.
Peu c'est un peu le vécu, hein. Donc ouais. Donc c'est comment osons, quoi, allons-y, et au plus on va multiplier des initiatives, au plus on va permettre l'expression, permettre de aux jeunes de développer des choses qu'ils ont envie de faire, au plus ça va aller mieux. Il y a des choses qu'on peut pointer et qui sont quand même très interpellantes quand on entend les jeunes nous les expliquer quand ils vont pas bien et qui sont confrontés à des professionnels quels qu'ils soient. La première question qu'on leur pose toujours, c'est quoi ton projet? Ils en ont pas, hein. Non, mais il faut arrêter avec ça, parce qu'à un moment, donc c'est de dire...
Oui, ça rajoute une couche d'angoisse, en fait.
Ben évidemment. Donc c'est de dire aussi, essayons, dans un changement, de faire des choses, d'impliquer avec les jeunes, par les jeunes, et en arrêtant peut-être, en profitant du moment présent, en construisant, en se disant, ben, aujourd'hui on a construit quelque chose, demain on va rajouter une brique, et de se donner ce temps-là, sans vouloir à toute force les projeter au chômage. Bon, non, allez, je rigole. Mais, je rigole, c'est pas bien ce que je dis.
On n'a pas entendu.
Mais voilà.
Oui, qu'ajouter encore, Elena?
Tu le vis comment? Parce qu'effectivement, ouais. Toi, tu étais au cœur du premier. Il y a eu toute la réflexion qui a été menée. Là, je suppose que ta position au sein du documentaire n'est plus du tout la même. Tu es sans doute beaucoup plus impliqué aussi dans la manière dont ça s'est construit, dans la direction que ça va prendre. Tu n'es plus simplement actrice dans le sens « on te voit à l'écran et c'est de toi qu'on parle ». Tu es véritablement actrice du projet.
Bah, c'est vrai que pour le documentaire numéro 2, enfin, j'ai pas été là à tous les moments et je suis pas dans tout le documentaire, mais j'ai tout suivi, enfin, toutes les étapes de ce que Pierre a construit, de ce qu'on a construit ensemble, de ce qu'on voulait dire à travers ce deuxième documentaire aussi. Et aussi, dans le premier documentaire, je ne fais que témoigner, entre guillemets, que parler de mon vécu. Et là, il y a un prisme où j'apporte une solution, enfin, où on apporte une solution et comme on le disait, en fait, il y a moyen de faire autrement, mais il faut surtout faire autrement. Et c'est ce qu'on essaye de dire avec ce documentaire-là, c'est d'apporter une nouvelle vision des choses et d'apporter une nouvelle manière de faire, de soigner, et, en tout cas d'apaiser. Et c'est vrai que dans le deuxième documentaire, au-delà de témoigner, parce que je vais témoigner à certains moments quand même, et je veux aussi amener cette autre vision, cette autre manière de faire les choses.
Et le point commun de toutes les initiatives qu'on a filmées, puisqu'il ne fallait pas être trop théorique, il fallait que les solutions qu'on propose soient des solutions existantes, pour que moi je puisse quand même avoir de la matière pour tourner, parce que je ne fais pas de la radio.
Ce n'est pas de la science-fiction non plus.
Et donc le point commun de toutes ces initiatives hyper intéressantes, c'est qu'elles sont malgré tout trop anecdotiques. Et donc, c'est une proposition qu'on fait. Emparez-vous de ces solutions qui représente un réel soulagement à la fois pour les soignants quand on était avec des soignants, mais aussi pour les personnes en souffrance. Et donc, on a là, si on généralise les initiatives qu'on présente là, des réelles possibilités de soulager les personnes. Et donc, c'est aujourd'hui comment sortir des opérations pilotes, en fait, quoi. Qui ont donné d'excellents résultats, mais qu'on se refuse à généraliser parce que, et on en revient à cette question très importante, que c'est très compliqué de faire autrement quand on a toujours fait comme ça. Parce que parfois, c'est ce qu'on nous rétorque, hein. Ouais, on l'a toujours fait comme ça. Et donc voilà, et dans des lieux comme les hôpitaux et les écoles, où on est face à des structures très verticales, très hiérarchisées, où on est sur des rails aussi, on a vraiment toujours fait comme ça, depuis parfois la nuit des temps. C'est très compliqué d'arriver et de mettre des grains de sable dans ces rouages qui fonctionnent excessivement bien pour freiner évidemment cette mécanique-là et se donner des marges de manœuvre pour pouvoir éventuellement faire autre chose et faire autrement. Et alors qui plus est, la question de l'hôpital va se retrouver vraiment au centre de beaucoup des réflexions dans cet espace hospitalier qui dysfonctionne parfois pour des raisons de moyens et de manque de moyens et de manque de personnel. Néanmoins, ça crée énormément de souffrance, mais on est face surtout à de fortes résistances de la part des soignants eux-mêmes et notamment des sacro-saints médecins et des psychiatres, pour ne pas les nommer.
C'est fait.
Voilà, c'est fait. Alors là, moi, je m'apprête, je creuse mes barricades, je vais sortir mon gilet pare-balles parce que je crains que ça va être une des professions avec laquelle on va avoir énormément de dialogues, à mon avis, très tendus. Et j'espère que ce seront d'ailleurs des dialogues parce que je sais combien c'est pas évident pour eux de renouer avec une certaine horizontalité des relations en se disant « je peux savoir, je peux avoir fait beaucoup d'études, mais je peux aussi me tromper ». Et donc, assieds-toi, écoute, c'est la proposition que je leur fais, on verra si ça va se vérifier. J'ai un peu des inquiétudes, mais c'est pas grave.
c'est intéressant parce que ça, ce sera le numéro 2, mais dans le numéro 1... On a eu ça avec les enseignants, hein.
Ouais.
Très fort.
Sur la défensive, hein.
Parce que, effectivement, là, on était sur le constat post-Covid, des décrochages, etc., où les jeunes, dans le documentaire, pointent la pression scolaire, pointent le fait que l'école n'est pas nécessairement toujours bienveillante. Et ça a été... on a eu des réactions, parfois... terrible de la part des enseignants qui le prenaient personnellement. En fait, les jeunes n'attaquent, c'est pas une attaque personnelle, c'est une remise en question du système globalement qu'ils font. Donc je trouve que c'est aussi cette question de l'horizontalité. Donc comment est-ce qu'on fait pour se parler, s'écouter surtout, hein, je pense que, sans vouloir absolument dominer l'autre, et sans vouloir et sans en fait se dire on me remet en cause, moi personne. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Et je veux dire, et c'est compliqué, quoi. C'est vraiment pas facile. Et on a senti ça beaucoup dans le premier. D'ailleurs, le premier, on est rentré dans les hautes écoles, dans les universités, auprès des écoles d'assistants sociaux, dans plein d'endroits. Mais les écoles secondaires, on peut les compter. Ça a été extrêmement compliqué. Et pourtant, et ça, Elena pourrait peut-être en témoigner quand même, quand on a fait des projections dans des écoles secondaires, ça a été des moments incroyables de partage et fantastiques.
Ben, je pense que moi, mes meilleurs souvenirs de projections, c'est les projections dans les écoles. Mais ça restait quand même... Enfin, déjà, il fallait vraiment... Enfin, c'était dur d'ouvrir les portes de ces écoles et d'accepter de se faire entendre. Et rares sont les écoles qui l'ont fait. Et rares sont les écoles élitistes et qu'on critique, entre guillemets, qui l'ont fait. Mais ça restait des projections super compliquées. Et parce que, de nouveau, nous, on parle beaucoup d'horizontalité, mais en fait, les élèves, ils étaient quand même dans un environnement scolaire. Et parfois, il y avait un peu ce truc où... un peu difficile avec l'autorité. Et puis aussi, c'est un sujet super tabou. Et quand on va parler de santé mentale avec des jeunes de 15 ans, c'est pas facile. Et ça a été parfois très compliqué d'amener le sujet... d'être écouté, d'être entendu et surtout d'être respecté par moment aussi. Mais en même temps, quand ça fonctionnait, c'était les moments les plus riches. Et moi, je me souviens d'une projection qu'on a fait relativement récemment dans une école secondaire. Donc, il y avait tous les 4e, 5e année, je ne sais plus. Et ils étaient, je pense, 200, un truc comme ça. Ils étaient 200. Et ils n'osaient pas poser des questions. Donc, ils nous parlaient pas trop et tout. Quand il y a des moments... Enfin, quand on leur laissait la parole, ils n'allaient pas forcément venir nous poser des questions. Puis, au moment de la pause, il y a un groupe de, je pense, 15 filles qui viennent au bord de scène et qui viennent juste nous parler à nous. Et donc, en fait, qui n'ont pas osé parler du tout parce qu'il y a le tabou, parce que, en fait, il y a un jugement exercé et qu'elles savaient qu'elles ne pouvaient pas spécialement parler en confiance devant 200 élèves. Mais en même temps, quand elles venaient nous parler à nous, c'était les échanges les plus intéressants, mais en même temps, les plus inquiétants parfois aussi, de gens qui n'en parlent pas et qui sont tout seuls avec leurs problèmes.
Et moi, je sens poindre une évolution. Et là, Véro, je parle sous ton contrôle. En fait, ce qui s'est passé lors de cette projection dans une école, un gros bahut bruxellois qu'on ne citera pas parce que ce n'est pas important, mais qui est plutôt élitiste que pas, on va dire.
S'ils ont déjà 200 élèves en quatrième, c'est que c'est un gros bahut. C'est
un énorme bahut. Ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est le contact que moi j'ai eu avec les enseignants, où j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup plus curieux qu'il y a de ça 2 ans quand on tournait avec le numéro 1, parce que je les sens mais complètement désemparés par la situation. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc moi j'ai une enseignante ce jour-là qui m'est littéralement tombée en pleurs dans les bras parce qu'elle est complètement débordée par les appels au secours de ses élèves. Et donc il n'est plus rare dans certains de nos établissements que des élèves appellent à l'aide leurs profs parce qu'ils sont débordés par des idées suicidaires. Mais c'est complètement hallucinant, quoi. Et donc, moi, quand j'ai entendu ce témoignage-là de cette professeure, j'en ai profité, puisque j'en avais plein d'autres en face de moi le jour de cette projection, pour leur demander, mais au fond, quel est votre sentiment aujourd'hui, X temps après le Covid? Est-ce que la situation se stabilise? Est pire? Où ça en est? Qu'est-ce que vous en pensez? Unanimement, ils m'ont tous dit que ça n'a jamais été aussi... que cette rentrée scolaire n'a jamais été aussi compliqué que depuis la sortie du Covid. Donc ça veut dire que la situation s'aggrave. Et paradoxalement, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas, du coup, je sens les professeurs beaucoup plus ouverts à faire éventuellement autre chose, parce qu'ils disent là, c'est plus possible comme ça, simplement.
C'est vraiment très intéressant ça, parce que si on reprend tout ce qui a été dit au cours de cette émission. Véronique, tu avais démarré en disant le problème de la santé mentale, en fait, il date de bien avant le Covid. Mais ça a été un moment de cristallisation et ça a commencé à atteindre tout le monde. Là, Pierre, tu nous dis, dans ces fameuses écoles où on exige productivité, où on est plutôt compétitif, etc., les professeurs diraient maintenant, on est à la pire année. Alors moi, je mets mon petit grain d'école tout à fait à l'opposé. Nous, on a justement l'impression d'en être sortis.
Ah oui?
Ouais. Nous, on, les élèves qu'on a face à nous maintenant, on a l'impression qu'ils respirent un peu plus.
Et de quelle façon vous en êtes sortis alors?
On travaille autrement.
Vous avez évité de faire du même. Mais c'est la preuve qu'en fait... Et ça, c'est hyper frustrant. C'est qu'on peut sortir de cette situation de crise, en fait, très facilement. Mais pour le coup, il faut oser faire autre chose, quoi. Moi, je pense que c'est plus facile qu'on l'imagine. Mais ça veut dire qu'il faut faire quand même radicalement différent. Et c'est ça qui n'est pas facile, en fait. C'est de faire radicalement différemment.
Oui, moi, je pense que... Enfin, en tout cas, ce qu'on a comme indicateur, c'est que la situation est loin de s'être améliorée. Elle s'est même plutôt aggravée comme indicateur. Mais par contre, on sent que là, peut-être, dans certaines écoles, la manière de fonctionner fait en sorte que, en fait, ça agit comme de la prévention. Je veux dire, en fait, il y a aussi toute cette question de la prévention. Je veux dire, à un moment, comment dans un environnement scolaire, où en fait, c'est là où sont les élèves, donc à un moment, c'est dans l'environnement scolaire, on est attentif aux fragilités des uns et des autres et on évite quelque part le passage de l'autre côté, hein, parce que c'est on peut vivre toute sa vie en étant hypersensible et en n'ayant pas une crise psychotique, hein, donc je pense que comment est-ce qu'on fait en matière de prévention dans les écoles pour éviter ce genre de choses? Ben, un, on travaille sur la question du climat scolaire, des évaluations, etc. Deux, on travaille aussi sur la démocratie scolaire en impliquant les élèves pour rédiger les règlements d'ordre intérieur, par exemple. Donc, ce sont des choses faciles, en fait, pas si compliquées que ça à mettre en œuvre, et qui font que le jeune va se sentir entendu, écouté, respecté, il va se sentir l'envie de participer aussi, et donc et il va aussi développer dans l'école un sentiment d'appartenance, et je dis, et tous ces éléments là sont essentiels, évidemment. Donc moi je pense qu'il y a de l'espoir, hein. je pense que mais ça veut dire que il faut se mettre au travail, et peut-être que dans des écoles plutôt élitistes, on n'a pas encore renoncé aux sessions d'examen de décembre et de juin, au classement, aux examens de passage et à toute la pression qui va avec. Et j'ai envie de dire que je ne vais pas que pointer les écoles, parce que derrière, il y a des parents qui sont demandeurs, en fait, de ce genre de choses. Donc, c'est tout notre petit monde d'adultes qui doit prendre conscience de la façon dont il faudrait changer les choses pour éviter ces basculements. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de parents dont les enfants étaient dans ces fameuses écoles élitistes et qui ont basculé, et qui, après, disent « Ah oui, non, j'aurais jamais dû. On n'aurait jamais dû. Hein. » Mais donc, c'est aussi quelle prise de conscience on a, qu'est-ce qu'on veut, en fait, pour nos enfants. Est-ce qu'ils doivent savoir tous faire des intégrales, des limites et l'examen d'entrée en polytech et médecine, ou est-ce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient bien et épanouis?
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. J'ai rien demandé à personne, juste éteint mon téléphone et j'ai tracé. Maintenant ça fait tut, 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 tut quand vous m'appelez. Plus j'imaginais l'avenir et plus j'avais l'impression de voir le passé. Quand on peut que subir, des fois faut juste s'en aller. Goodbye, adieu les vieux potes toxiques, j'me casse. Goodbye, adieu mon pays, merci, goodbye. J'ai un enfant à élever, j'peux plus faire du sur place. J'ai plus de temps à perdre dans vos problèmes de base. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je les entends déjà dire que je suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sûr qui rejetait la faute, ça va passer. En vrai, je les ai attendus toute ma vie, mais jamais rien n'a changé. Plus je voyais ce qu'ils devenaient, moi je voulais leur ressembler. Goodbye, adieu les drames, les gossips, je me casse. Goodbye, adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer, faut que j'y perde de l'espace. Mon cœur est limité, je dois faire de la place. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je fais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin.
Et alors, Véronique, tu mets le doigt en fait sur le chaînon intermédiaire aussi, parce que changer les écoles primaires, secondaires, sans changer le système des écoles supérieures, c'est aussi les envoyer au casse-pipe.
Là, par contre, je suis moins inquiet parce que... et j'ai envie de compléter ce que tu disais, c'est parce que on aura des jeunes qui seront bien dans leur peau, qui pourront être éventuellement médecins, polytechniciens et autres quoi. Donc l'un n'empêche pas l'autre du tout, et même je dirais que l'un pourrait favoriser l'autre, mais bon. Et pour le reste, moi je suis moins inquiet sur les hautes écoles et universités, parce que de mon expérience, et on est quand même allé de nombreuses fois en projection dans ce secteur-là, j'ai trouvé des enseignants et des directions de haute école et université qui ont mis en place des choses et qui ont été les plus rapides sur la balle par rapport à la question de la santé mentale des étudiants. Est-ce que c'est suffisant ce qu'ils ont proposé? Probablement non. Mais moi, je les trouve globalement quand même beaucoup plus ouverts à éventuellement faire autre chose. Moi, je me souviens, puisqu'on tient une revue de presse maintenant santé mentale presque quotidienne, je me souviens qu'à la rentrée dernière, la rentrée académique dernière, une professeure de l'université ici de l'ULB se demandait s'il fallait conserver les sessions d'examen qu'elle ne trouvait plus si efficaces que ça en temps psychique compliqué, on va dire quoi. Si elle faisait, elle expliquait qu'elle faisait le rapport coût-bénéfice des sessions d'examen sous l'angle santé mentale et pédagogie, elle était plus si convaincue que c'était un modèle à défendre. Et donc il y a quand même, je trouve globalement le monde académique supérieur beaucoup plus prêt à faire autre chose.
Moi je serais un tout petit peu plus nuancé quand même dans je pense que tout le système est à repenser, mais je pense aussi il y a un élément donc qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que notamment les questions de précarité jouent énormément sur la santé mentale et la précarité des jeunes étudiants. Hein, donc là, on va augmenter leur nombre d'heures où ils vont pouvoir travailler, 650 heures par an. Donc c'est quand même énorme. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour réussir des études universitaires quand on doit travailler 650 heures? On va forcément pas bien, parce que ça fait aussi partie de la pression qui est mise sur l'étudiant. Donc je dirais à un moment, le modèle de l'université, c'est un modèle qui date aussi, hein, et qui répond à des étudiants qui sont dans des familles où on a les moyens. Et où en fait, quand on est en blocus, papa, maman font à manger, font le linge et s'occupent de tout. La réalité n'est plus celle-là aujourd'hui. Et donc, oui, ça a un impact sur la santé mentale, et je pense que ça, il faut le dire, et le dire très très fort, parce que c'est les publics les plus précarisés qui sont le plus susceptibles de tomber dans les problèmes de santé mentale graves. Et donc, à un moment, bah oui, le public étudiant est confronté à cette question-là.
Mmh. Oui, ça, on peut faire vite un petit peu de chiffres, hein, parce que c'est important.
Oui, tout à fait.
Socio-économiquement parlant, les jeunes sont surreprésentés quand on parle des revenus de remplacement, que ce soit le chômage ou le RIS. Donc j'ai fait mes petites recherches et je peux donc vous affirmer que grâce au bureau du plan, on peut dire aujourd'hui que, en gros, 20% des jeunes émergent d'un revenu de remplacement, que ce soit chômage ou RIS, là où pour les autres catégories d'âge, donc quand je dis jeune, c'est moins de 25 ans, là où pour les autres catégories d'âge, on parle de 4 à 5%. Donc on a vraiment un quadruplement de jeunes qui bénéficient de ces revenus de remplacement. Et si on fait un petit focus de l'évolution du RIS en Belgique, depuis 25 ans maintenant, ou presque, 2003, on a 75 000 Belges qui émergent d'un revenu d'intégration sociale. 2023, on est à 175 000. Donc si on met en lumière tous ces chiffres-là, surreprésentation des jeunes, évolution incroyable, explosion du nombre de Belges qui émergent d'un RIS, on imagine évidemment à quel point les jeunes dans cette augmentation sont particulièrement fragilisée socio-économiquement aujourd'hui, hein, en 2025.
Mmh. Oui, et la situation que tu évoquais, Véronique, concernant les étudiants donc en école supérieure, c'est quelque chose que nous, on constate aussi dans le secondaire, avec énormément d'élèves, justement, qui ne sont pas dans ces écoles favorisées, qui se retrouvent un petit peu à la marge, et qui sont obligés, eux aussi, de travailler, et de combiner ça avec... Là, carrément, un horaire complet et des cours à suivre. Et donc, clairement, ça va main dans la main avec du décrochage scolaire et des problèmes de santé mentale.
Mais, alors, c'est une évidence, hein. Si on parle de santé mentale, et on parle de prévention, eh bien, la prévention, c'est lutter contre la précarité, c'est le droit au logement pour tous, c'est la question des inégalités de genre. En fait, c'est ça la prévention. Et c'est dans ça qu'on rejoint le combat, un combat qui est politique, c'est un changement de société, parce que toutes ces questions-là mènent, pas inévitablement, mais souvent, à des problèmes de santé mentale. Et forcément, quelqu'un qui n'a pas de logement, qui ne sait pas remplir son frigo, c'est compliqué la vie. Hein. Donc, et là, les étudiants sont effectivement fort confrontés et on voit effectivement le phénomène arriver dans le secondaire aussi, où des jeunes doivent travailler le soir pour pouvoir aider leurs parents à subvenir à leurs besoins. Et c'est un vrai problème, hein, parce que comment font ces gamins pour avoir 36 heures de cours, plus travailler le soir, plus éventuellement étudier l'interro de Madame Wickmans. non, allez, je rigole, mais c'était une petite blague. Donc, à tous ces éléments-là, il faut y faire attention dans le système et dans les écoles aussi, et être effectivement très, très attentif à ces jeunes qui peuvent basculer dans le décrochage, dans les problèmes de santé mentale.
Oui, c'est important de dire qu'il ne faut pas être naïf, effectivement, faire autrement, éviter de faire du même, et on parlait de tout ça pendant un petit temps, tout ça n'aura mais aucun impact sur l'amélioration des conditions de vie des Belges qui sont vraiment dans des situations de précarité importantes. Donc c'est important de garder ça à l'esprit, et que donc il y a vraiment un combat social fort qu'on doit porter également.
Mmh. On va peut-être terminer là-dessus. Véronique, Pierre, Elena, le 2, on l'attend pour quand?
Alors,
le 2, je dis le 2, il va s'appeler Tout va s'arranger 2?
Non, on a un tout petit peu changé de titre. Alors ça a été vraiment une grosse réflexion. Ce sera Tout s'est arrangé ou pas?
Pas mal.
Voilà, petite nuance. L'idée est moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est que je laisse le soin au public qui aura vu le 2 de faire ses propres conclusions.
Et pour ceux qui voudraient faire du rattrapage?
Alors, le premier est disponible sur demande, il suffit de m'envoyer un petit mail, mais on ne le libérera pas sur le net pour des questions de droit à l'image et à l'oubli notamment.
Et dernier petit point, si on veut soutenir votre collectif, c'est un collectif Tout va s'arranger ou...
Très bonne question. C'est vrai qu'on va devoir y penser, parce que faire fonctionner un groupe d'entraide d'une quinzaine de jeunes, eh bien, ça représente des frais et on n'a pas beaucoup de sous. Et si les personnes souhaitent nous soutenir financièrement, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact également. Ce sera le bienvenu, parce qu'on est rêche là. On est vraiment ric-crac.
Nous soutenir et nous rejoindre. Oui, donc inviter aussi les jeunes à ne pas hésiter à venir nous rejoindre, et les moins jeunes aussi. Je pense que c'est important, et c'est important d'étendre ce collectif à des profils un petit peu différents. Notamment, moi, je pense, il nous manque des enseignants dans notre collectif, et je trouve que ce serait vraiment hyper intéressant aussi, parce que d'avoir les points de vue de chacun est important, et de s'écouter et de monter un projet ensemble, et c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas, hein, y a une page Instagram, y a nos adresses mail quand c'est un peu plus sérieux.
Oui, parce que l'horizontalité, c'est bien quand on en parle, mais c'est encore mieux quand on la pratique. Et donc, quand on nous rejoint physiquement dans la vraie vie, c'est pratiquer cette horizontalité avec les jeunes. Et
c'est parfois fatigant. Hein.
Oh, pas tant que ça. Moi, j'ai l'impression que ça me permet de vieillir moins con. Donc, tu vois.
Elena, cette proximité avec des adultes qui pensent vieillir moins con, ça te dit quoi?
Bah, moi, je pense que Pierre est en train de vieillir moins con. Non, mais... mais plus sérieusement, je pense que... Bah, moi, ça m'apporte beaucoup. Et je pense que c'est réciproque, que ça apporte énormément aux adultes aussi. Et moi, ça m'apporte beaucoup, j'ai envie de dire, humainement et intellectuellement. Et aussi d'être en contact avec des plus jeunes que moi. Parce qu'il y a toute cette génération qui est... on la surnomme la génération de verre, d'ailleurs, je pense, parce qu'elle est très fragile. Et c'est très intéressant d'être en contact avec des gens de plusieurs milieux différents qui ont plusieurs expériences à apporter. Et voilà.
Super. Eh bien, Véronique, Pierre et Elena, un grand, grand, grand merci pour tout ce temps passé ici en studio. Et j'espère que tout va s'arranger.
Évidemment que ça s'arrange. Merci pour l'invitation.
Merci.
Voilà, c'est d'ici que se referme cette histoire de savoir. Merci évidemment à Elena, Véronique et Pierre de m'avoir accordé cette interview. Quelques petites infos, donc comme je vous disais en début de programme, si vous voulez avoir l'opportunité de regarder Tout va s'arranger et Tout s'est arrangé, l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, je vous renvoie vers le site du Centre d'Action Laïque. Pour le collectif, là le plus simple c'est sans doute la page Instagram, collectif Tout va s'arranger. Voilà, et sinon vous contactez Radio Campus et on répondra à toutes vos questions. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour un autre Histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?